Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier. Et bien ce soir, nous allons pendant une petite heure aborder en ce 25 février 2016 la question des civilisations, de l'histoire des civilisations précolombiennes, autrement dit des civilisations de l'Amérique latine qui formaient avant la colonisation espagnole, dont on parlera ce soir, qui a eu lieu au XVIe siècle, ces peuples si étonnants, si brillants, si fascinants, dont on ne commence à découvrir l'archéologie que depuis à peu près un bon siècle seulement. Et j'ai nommé, bien sûr, les civilisations empires aztèques, incas, mayas, civilisations les toltecs, les olmecs, tout ça. C'est ce dont nous allons parler ensemble ce soir. Alors, dans un premier temps, il s'agira surtout de vous donner quelques repères sur ces civilisations, sur ces peuples. Bien sûr, une imposante littérature existe d'ores et déjà, j'innove un peu cette fois-ci à l'occasion de cette émission, retenu deux indications bibliographiques qui peuvent être tout à fait intéressantes. La première, ce sont les ouvrages du très célèbre ethnologue Jacques Soustelle. On pourra remettre évidemment sur les différents médias et Facebook, réseau, sur la chaîne TerraZen et sur Twitter les références. Jacques Soustelle, qui était un ethnologue né en 1912, mort en 1990, qui a écrit énormément d'ouvrages sur les Aztèques, sur les Mayas aussi, auteur de nombreux que sais-je. Et puis deuxième, rapidement, petite orientation bibliographique que je voulais donner en début de cette émission, c'est le Que sais-je, qui en plus vient de sortir là en février 2016, écrit par Éric Taladoire et Patrice Lecoq, qui s'appelle Les civilisations précolombiennes. Vous savez que la collection Que sais-je, ce sont ces ouvrages qui sont des condensés en quelque sorte, des connaissances, de l'état des connaissances que nous avons sur ces peuples. Éric Taladoire est un archéologue de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai eu modestement l'honneur dans mon cursus d'avoir des cours magistraux avec lui. C'est donc, je pense, quand même une bonne référence que cet ouvrage. Alors, parlons peu, parlons bien. On va déjà commencer par définir ce qu'est cette ère méso-américaine des peuples précolombiens. Alors, au départ, il s'agit déjà de tous les peuples qui se trouvaient sur la surface des Amériques, comme on les appelle, tant l'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Amérique du Nord, que bien sûr toute l'Amérique du Sud, et de tous ces peuples donc qui se trouvaient là. L'histoire évidemment des Indiens d'Amérique du Nord est liée évidemment à la conquête par ce qui seront plus tard, ce que fera plus tard les États-Unis. Ce n'est pas de cela dont on va parler ce soir, même si évidemment on peut y évoquer quand même les peuples iroquois, notamment Navarro, etc., que l'on trouve sur le territoire donc, qui forme les États-Unis et également les peuples qui se trouvent également dans ce qui forme aujourd'hui le Canada. Hein. Mais nous, on va vraiment se concentrer donc, sur la surface actuelle du Mexique, hein, c'est-à-dire principalement les Aztèques, hein, les Mayas, les Olmecs, dont on va parler ce soir. Hein. Tout ça, donc, c'est eh bien, l'Amérique centrale. Hein, et ce petit morceau qu'on oublie toujours, qui appartient à l'Amérique du Nord, hein, mais qui est quand même le Mexique. Hein. Et puis, bien sûr, la partie de l'Amérique du Sud en tant que telle, hein, et de sa façade pacifique. Hein. Là encore une fois, je renvoie toujours à des cartes, hein, j'en ai mis une au moins sur la page Facebook avant l'émission, parce que je pense que là, la géographie, comme on dit, est quelque chose de tout à fait indispensable, hein, dans ce genre de sujet que l'on traite ce soir. Hein. Donc l'Amérique du Sud, hein, toute la partie Amérique du Sud, donc, et sa façade pacifique, avec bien sûr, hein, la très importante civilisation Inca, hein, dont on aura l'occasion de parler ce soir. Et d'ores et déjà, il faut tout de suite, bien sûr, penser à la chose suivante, hein, c'est que il ne s'agit pas du tout de peuple primitif, etc. Non, pas du tout. On parle vraiment, hein, quand on parle du monde précolombien, des civilisations mésoaméricaines, hein, de civilisations extrêmement développées. Hein, avec des pouvoirs politiques complexes, avec des cités-États, avec des millions, hein, et ça il faut bien insister là-dessus, des populations très 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 importantes. Hein. Et là, en effet, ce qui va se passer au XVIe siècle, on en parlera de cette fameuse conquête par à la fois les Portugais et les Espagnols, hein, ce sera là effectivement un choc. Hein. On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a plusieurs, hein, types de chocs. Hein, choc de civilisation, c'est absolument sûr. Hein, choc technologique aussi, qui fait que, bon, eh bien évidemment, hein, ce sont les peuples, entre guillemets, colonisateurs, conquérants, qui l'emporteront sur ces sociétés extrêmement complexes dont on va parler ce soir. Alors, dans un premier temps, hein, il faut déjà voir, bien sûr, une définition, hein, une définition de ce qu'est, de ce dont on parle. Alors, il faut savoir que le terme précolombien, hein, est utilisé dans l'étude des civilisations autochtones, hein, je cite, des Amériques. Alors, notamment, hein, on donne la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, donc notamment de Mésoamérique, les Olmèques, les Toltèques, les Apothèques, les Mixtèques, les Aztèques, les Mayas, et de l'Amérique du Sud, hein, dont on vient de parler, civilisation de Caral, civilisation andine, hein, c'est-à-dire les Incas, les Molchès, les Chibchas et les Cañaris. On a bien compris que l'histoire a principalement retenu le nom des Incas. Alors, voilà pour le cadre, hein, général, hein, de ce dont on souhaite parler ce soir. Alors ensuite, bien sûr, il y a la question chronologique. Quand est-ce que tout cela se passe? Parce que si pour nous, dans la plupart des cas, nous nous bornons, hein, à une chronologie sur cette période qui retient bien sûr le XVIe siècle, la conquête, etc. Hein, et puis ensuite les différents événements qui vont se produire. Hein, il faut se dire aussi que l'archéologie, les recherches sérieuses sur ces peuples, certes, évidemment, ont commencé avec le choc de la conquête au XVIe siècle, puisque c'est à ce moment-là, évidemment, que, fort heureusement, quelques personnages, dont Bartolomé de Las Casas, dont on parlera tout à l'heure, ont tenté de sauver, évidemment, une partie du patrimoine culturel de ces peuples, hein, voyant là qu'il y avait des civilisations tout à fait captivantes. Mais et pour une bonne partie de ce dont on va parler, ce qui se passe concernant les recherches, vraiment, les fouilles, le travail de l'archéologue, le travail des historiens aussi, hein, on a parlé aussi d'ethnologues tout à l'heure, hein, archéologues comme Éric Taladoire, ethnologue très célèbre comme Jacques Soustel, tout ça, ça va vraiment prendre son envergure, hein, entre la fin du 19e siècle, hein, et tout l'ensemble du 20e siècle. Donc, on est là sur une étude, hein, au point de vue scientifique du terme, hein, qui est récente. Il faut bien garder ça à l'esprit, hein, dans toute l'émission de ce soir, parce que je ne dirais pas qu'on ne sait rien sur ces peuples, fort heureusement, on commence à savoir pas mal de choses, hein, mais c'est une science, un objet d'étude, hein, qui est quand même à son début. Hein. Il est évident que, bon, si on fait qu'un titre de comparaison, hein, que l'étude de l'Égypte, bon, a vraiment commencé, on le sait bien, bon, c'est une gageure que de le dire, hein, avec l'expédition de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Bon, on peut dire que l'égyptologie, hein, en tant que science, a à peu près un siècle de plus, hein, que l'étude donc des civilisations mésoaméricaines, doit-on avoir ce soir, hein, qu'elle remonte, hein, pour quelques-unes d'entre elles, aussi loin, hein, que des périodes comme celle de Ramsès II avant notre ère. Hein, je veux dire. Donc c'est quand même, hein, quelque chose de tout à fait conséquent. Hein. Il y a des pyramides en Égypte, ben on va voir qu'il y a des pyramides aussi, hein, qui sont un peu différentes, des pyramides à degrés, hein, qui sont également donc en Amérique précolombienne. Hein. Et je dis des différences et des ressemblances, puisqu'on sait bien que quelques pyramides, comme celle de Saqqara, justement, rappellent fort étrangement justement certaines pyramides, hein, que l'on a trouvées dans la sphère mésoaméricaine. Alors, trois grands empires, hein, vont nous captiver ce soir, qui sont les deux qui vont être soumis, hein, si on peut dire, par les conquistadors, conquistadores, hein, qui sont les Aztèques et les Incas, hein, et puis un autre, beaucoup plus ancien, qui n'arrivera pas jusqu'à la période de la conquête, qui est l'empire Maya. Alors, on commence déjà par la localisation. Alors, il faut bien avoir à l'esprit, une carte. Hein. On a d'abord, hein, un berceau, pourrions-nous dire, civilisationnel, hein, qui est ce qu'on appelle le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, c'est cette échancrure, hein, que l'on voit sur la carte, hein, avec une petite péninsule qui ressort un peu au sud du Mexique, s'appelle la péninsule du Yucatan. Hein, et c'est là, hein, c'est là, dans cette région-là, autour de la cité de Tenochtitlan. Alors, ce soir, il y a beaucoup de noms complexes, hein, parce que bon, ce sont des noms, la plupart des noms quechua, des noms indiens. Hein. C'est là que se trouve une des plus anciennes, si ce n'est peut-être la plus ancienne, puisqu'on est à plus de 1000 ans avant l'ère chrétienne, hein, 1300 ans, nous disent les archéologues. Hein, c'est la civilisation des Olmèques. Les Olmèques, dont on va revoir les caractéristiques tout à l'heure, hein, qui est une civilisation donc, dont la caractéristique principale est d'avoir sculpté des têtes gigantesques, hein, avec des personnages, donc de ces têtes qui pèsent plusieurs tonnes. Alors cette civilisation-là se développe autour de différents sites, comme San Lorenzo, hein, dont on parlera tout à l'heure, et elle va durer à peu près jusqu'à 500 ans avant notre ère, donc on est à peu près entre 800 ans et 1000 ans d'une histoire dont on sait pas grand chose. C'est la plus ancienne, hein, de ces civilisations qui se met en place à ce moment-là. Alors tout de suite après, hein, ou quasiment en parallèle pour nous dire, il y a le fameux peuple Maya. On en va pas mal parler ce soir, elle fait partie de ces civilisations millénaires, hein, puisqu'elle prend ses racines elle aussi plus de 1000 ans avant l'ère chrétienne, hein, pour, disons, entrer dans sa phase, pourrions-nous dire, de décadence aux alentours de l'an 1000 de notre ère. Donc là, on est au-delà du millénaire, hein, c'est une civilisation extrêmement complexe. Civilisation dont on va voir les détails tout à l'heure, avec des cités-états, des pyramides, bien sûr, un système de codex aussi, de calendrier, extrêmement calendrier astrologique tout à fait précis. On a parlé des Mayas, vous le savez très bien, à cause du fameux calendrier qui faisait, rappelez-vous, terminer notre monde en décembre 2012. Rappelez-vous, on pourra peut-être en redire quelques mots tout à l'heure. Donc, toujours est-il que quand au XVIe siècle les conquistadors arrivent, la civilisation maya évidemment s'est terminée et les Olmèques aussi. Il faut bien avoir à l'esprit que ce sont les Aztèques et les Incas principalement qui vont être les points de contact avec le monde occidental au XVIe siècle. Alors, ces Mayas, encore une fois, géographiquement, donc on a parlé tout à l'heure du golfe du Mexique, Tenochtitlan pour les Olmèques, c'est localisation pour eux, le sud du Mexique, l'Amérique centrale, le Yucatan, encore une fois, et donc des caractéristiques avec effectivement ces pyramides, qui n'étaient pas nécessairement des tombeaux, mais qui servaient notamment pour un certain nombre de sacrifices. On parlera tout à l'heure des principaux dieux de ces peuples. Ce sont des peuples, évidemment, avec, certes, au centre, pour la plupart de leur culture, le cycle solaire, le soleil, qui est évidemment un élément central. On a tous en tête, évidemment, le temple du soleil de Tintin. Eh bien, justement, c'est assez intéressant. Et une panoplie absolument faramineuse de dieux, donc des civilisations polythéistes. On pourrait faire une comparaison, puisqu'on est au-delà du millénaire avant notre ère, avec l'Antiquité. Donc l'Antiquité gréco-romaine, où nous avions aussi là des civilisations polythéistes. Ensuite, on va se concentrer sur une autre zone géographique, cette fois-ci toujours dans la région du Mexique, autour de la ville de Mexico cette fois-ci. Et là, donc, c'est la fameuse civilisation aztèque, qui arrive assez tard, après l'an 1000. Je suis assez prudent sur les dates ce soir, vous le verrez, car, encore une fois, on est dans une discipline, j'insiste, au niveau archéologique, historique, qui est naissante. Il faut bien le préciser. Mon but ce soir, évidemment, n'est pas du tout d'être le spécialiste de la question, ça n'est pas mon cas, mais plutôt de donner de grandes lignes de présentation directive sur ces aires civilisationnelles. Donc là, ce sont les Aztèques qui vont donc effectivement partir, on donne 1300 de notre ère à peu près, jusqu'à, si je puis dire, la dilution définitive après le XVIe siècle dans les conquêtes et leur dilution, si on peut dire, dans le monde colonial hispanique qui va naître à ce moment-là. Ensuite, quatrième zone, cette fois-ci, on pénètre dans l'Amérique du Sud, proprement parlé, c'est-à-dire la zone péruvienne, autour du fameux peuple dit de Nazca. Alors ça, je pense que ça intéressera un certain nombre d'entre vous, parce que Nazca, quand on parle de Nazca et qu'on connaît un peu la question, de quoi s'agit-il? Nazca, c'est justement ce peuple qui se trouve sur un plateau péruvien, plutôt du côté du Pacifique, et qui a laissé sa trace dans l'histoire en traçant un gigantesque calendrier, avec un bestiaire d'animaux tout à fait fantastique, tracé en ligne droite précisément sur des centaines de kilomètres. C'est une énigme totale. Il y a plusieurs théories pour expliquer comment ce peuple Nazca a réussi à faire ce calendrier gigantesque qui ne peut être vu que du ciel, il faut le préciser, c'est assez instructif quand même. Et les Nazca, donc, plateau péruvien, alors là, nous sommes à 300 avant notre ère, Jusque le 9e siècle de l'ère chrétienne, un peu plus de 1000 ans, qui donc vont voir s'épanouir cette civilisation. Et puis donc, bien sûr, un peu en parallèle d'ailleurs avec les Aztèques, c'est les Incas, le fameux empire Inca dont on a parlé un peu en début d'émission tout à l'heure. Les Incas, donc, qui vont recouvrir eux un territoire tout à fait énorme. On y reviendra tout à l'heure, mais une des caractéristiques de l'Empire Inca était son réseau routier extrêmement complexe. On comptait un réseau routier de près de 25 000 kilomètres. Il faut s'imaginer ce que ça peut représenter. Ces Incas, donc, eux, se répandent, si on peut dire, quasiment du nord, au sud, donc de l'Amérique du Sud. C'est absolument gigantesque et s'étendent sur une bande de terre, justement, le long de l'océan Pacifique. On est de la côte Pacifique. Vous savez que la côte, évidemment, Atlantique, la partie ouest, la partie est, pardon, de l'Amérique du Sud, est recouvert par la gigantesque forêt amazonienne, vous le savez. Et là, par contre, les peuples, donc, comment dire, que l'on y trouvera, sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins organisés au niveau des sociétés. Ça n'a rien à voir avec cet empire gigantesque qu'est l'Empire Inca, donc qui recouvre à la fois le Pérou, le Chili et la Bolivie actuelle. Les bornes historiques, c'est un peu les mêmes, je disais tout à l'heure, que les Aztèques. On est sur du 1300, à peu près avant 1300 de notre ère, pardon, 14e siècle, jusqu'à la conquête. Donc à peu près 3-4 siècles pour cet empire Inca, qui lui aussi, comme l'empire aztèque, disparaîtra sous le coup de la conquête hispanique. On en parlera tout à l'heure. Une des villes les plus emblématiques, bien sûr, parce qu'elle a été découverte à la fin du 19e siècle, c'est la fameuse cité du Machu Picchu, qui est mondialement célèbre, et qui est à lui tout seul, pourrions-nous dire, une véritable énigme. Alors, tous ces peuples, évidemment les ethnologues, les archéologues qui ont commencé à s'intéresser à tout ça au 19e siècle, se sont dit, mais d'où venaient-ils? Bon, on sait aujourd'hui que les peuples, tant ceux, les peuples indiens qui ont peuplé l'Amérique du Nord, le Grand Nord déjà canadien, l'Amérique du Nord, et puis ensuite donc essaimé jusqu'à ce qui nous intéresse ce soir, venaient probablement d'Asie et seraient passés à une époque très lointaine. Une époque préhistorique, dirions-nous, par le détroit de Bering. Le détroit de Bering, c'est cette petit bras de mer, si vous voulez, qui sépare le nord du continent américain de l'immense continent eurasiatique, constitué par la Sibérie. Donc ces peuples seraient venus effectivement de l'Asie en passant par là. C'est ce que nous disent les sources. Alors évidemment, les études génétiques qui ont pu être faites par les scientifiques font remonter la présence de l'homme sur ce continent, dans les Amériques, à 40 000 ans. Avant notre ère, on est vraiment dans un peuplement, donc on l'a bien compris, extrêmement ancien. Alors ensuite, parce que bien sûr, les études scientifiques ont codifié, en quelque sorte, toutes ces périodes, eh bien, il faut savoir qu'il y a trois grande classification de l'histoire, pourrions-nous dire, de ces peuples, ces trois grandes codifications, ces grandes tranches historiques sont d'une part la période dite préclassique, qui va de 2500 avant notre ère, donc là on voit, on est vraiment dans les premiers foyers de ce qui vont former les grandes civilisations dont on a parlé tout à l'heure, comme les Mayas par exemple, ou les Olmèques, 2500 avant notre ère jusqu'à 200 après notre ère. Ça, c'est ce qu'on appelle la période préclassique. Puis il y a la période dite classique, qui va donc du 3e siècle de notre ère, 200, au 10e siècle, c'est-à-dire 900 après notre ère. Là, c'est la période classique. Et puis la période dite post-classique, Xe siècle, hein, donc les années 900, jusqu'à bien sûr ce choc, cette césure, hein, on va en parler en détail tout à l'heure, qu'est bien sûr donc la conquête, hein, c'est-à-dire le XVIe siècle. Vous savez quand même que, hein, c'est pas, j'ai pas tort de le rappeler, hein, que tout cela, pourquoi est-ce que tout cela arrive, hein, pourquoi est-ce que ces civilisations, d'ailleurs, une question amusante historique qui serait, aurait été de se poser, savoir s'il n'y avait jamais eu de contact entre l'Europe, pourrions-nous dire, hein, et ces peuples-là, qu'est-ce qui se serait passé, comment auraient évolué ces civilisations. C'est assez captivant de se poser cette question. Alors, on a parfaitement le droit en histoire de rêver aussi, j'insiste toujours, surtout dans cette émission d'Histoire du Soir, sur la notion de l'imaginaire et de notre liberté d'esprit, hein, que je trouve absolument fondamentale. Alors, donc les principales cultures, donc on les a vues, hein, donc ce sont alors d'une part ces fameux Mayas, péninsule du Yucatan, l'Honduras, les Olmèques, hein, toute la côte du golfe du Mexique, hein, et les Olmèques, dont on va parler encore un peu tout à l'heure, qui sont surtout, dont les vestiges se trouvent dans les États du Mexique actuel, État du Guerrero, de Oaxaca et le Chiapas, et jusqu'au Costa Rica. Les Apothèques aussi, dont on parlera un peu moins, la côte Pacifique aussi, l'État d'Oaxaca au Mexique. Également, bien sûr, les Aztèques. Les Aztèques qui vont se trouver concentrés autour de Mexico. Il faut savoir que, bien sûr, la capitale, hein, de l'empire aztèque, hein, c'est, hein, si vous voulez, et on va le développer tout à l'heure, hein, bien sûr, c'est Tenochtitlan, hein, qui est l'actuel. L'actuelle capitale du Mexique, hein, c'est-à-dire Mexico City. Hein. Je m'aperçois que je vous dis c'est Teotihuacan et non Tenochtitlan. Hein. C'est une petite erreur. Alors, ensuite, les caractéristiques maintenant de ces peuples divers. Alors, en ce qui concerne les Olmèques, hein, les principales choses qu'on a pu retrouver sont des poteries très anciennes, hein, qui remontent au premier foyer de cette civilisation, qui nous remontent là à près de parfois de 2000 ans avant notre ère, hein, on est avant que la civilisation olmèque elle-même se forme. Hein. La capitale principale autour de laquelle tout ça s'organise, c'est Tenochtitlan. Hein, avec déjà des temples en forme de pyramide, une civilisation, les Olmèques, extrêmement intéressante, mais très peu connue encore, basée sur l'astrologie, sur les arts, le développement des mathématiques, de la religion et également, évidemment, toute une économie. Hein. Ensuite, toujours dans les caractéristiques, on a ce qu'on appelle la civilisation de Teotihuacan, hein, qui va d'abord se développer autour des apothèques, hein, moins 300 avant notre ère, hein, jusqu'à 500 de notre ère, autour notamment de la ville de Tikal. Hein. Il faut savoir, hein, que on a des strates, hein, dans ces populations, c'est-à-dire qu'on a, on comprend bien, vu comment dire, le zonage géographique où se trouve, hein, des peuples qui se succèdent. Hein. On a bien compris qu'il y a d'abord les Olmèques, hein, ensuite les Apothèques, les Aztèques, etc. Hein, tout cela se recouvre, hein, par strates successives, c'est-à-dire que quand une civilisation disparaît, eh bien une autre, hein, bien sûr, avec ses caractéristiques propres, hein, se met en place. Hein. C'est ainsi d'ailleurs que les Mayas, hein, dont on a parlé tout à l'heure, hein, eh bien les Mayas vont prendre la suite, hein, justement des Olmèques et des Apothèques, et donc dans la même zone, hein, dont on a parlé. Hein, les plus grandes caractéristiques avec les Mayas, c'est leur écriture, hein, qu'on commence à peine à déchiffrer, hein, les fameux codex, hein, qui sont ces espèces de hiéroglyphes en quelque sorte qui représentent différents éléments, hein. c'est des livres, hein, les codex, hein, et ils sont faits sur du papier d'écorce, hein. L'écriture maya est considérée comme la plus sophistiquée, hein, des Amériques, hein, également. Et tout cela, donc, dans cette zone géographique, se termine effectivement avec l'Empire aztèque, dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec cette capitale Mexico. 300 000 habitants, il faut imaginer, ces quelques centaines de conquistadors, hein, qui, autour de Cortés, vont arriver et découvrir, hein, la capitale de l'Empire aztèque. Hein, une capitale de 300 000 habitants, c'est énorme, c'est un empire de 24 millions d'habitants. Cela paraît tout à fait incroyable et tout à fait étonnant, hein, que de voir comment, et on va en reparler, hein, comment, eh bien, les civilisations, le choc des civilisations du XVIe siècle a fait que, eh bien, les Européens ont pris le contrôle, hein, manifestement assez facilement, quand même, nous disent les chroniques de l'époque, de ces peuples. Alors, j'ai ensuite fait, pour la clarté, si je puis dire, de cette approche de ce soir, quatre fiches que je vais vous résumer maintenant concernant donc les peuples dont on parle donc ce soir. Alors, en premier, on l'a bien vu, ceux qui sont les plus anciens, ces fameux Olmèques, hein, dont on date le début de l'organisation cité-État autour du XIIIe siècle avant notre ère, hein, et comment dire, dont les premières poteries dont on a parlé tout à l'heure, hein, nous amènent encore 1 000 ans en arrière. Alors, donc, on est dans les États, comme on l'a dit, hein, d'Oaxaca, du Chiapas. Hein. C'est vraiment une civilisation tournée essentiellement et beaucoup autour du culte et de la culture du jaguar, hein, cet animal évidemment de la jungle, donc mésoaméricaine, qui est considéré comme comment dire, un animal totémique, pourrions-nous dire. Des têtes colossales. Hein, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on voit très facilement, qui sont tout à fait mystérieuses, et d'autant plus mystérieuses, ces têtes colossales olmèques, que on ne sait toujours pas à l'heure actuelle comment le matériau a pu être apporté sur les sites comme celui de San Lorenzo, dont je parlais tout à l'heure, hein, ou de La Venta, parce que c'était à plusieurs centaines de kilomètres et qu'on se demande comment, encore à l'heure actuelle, les Olmèques ont pu amener les matériaux jusque-là. Vous vous souvenez, on avait fait une émission, je crois que la première d'ailleurs, d'Histoire du Soir, sur l'île de Pâques, hein, dont on se demandait aussi comment les Pascouans avaient, lors de la période, comment dire, de la civilisation dominée par les prêtres, la caste des prêtres, hein, comment avaient-ils pu amener les matériaux, les Moai de l'île de Pâques, qui étaient sculptés dans une carrière gigantesque à côté du volcan, comment avaient-ils pu amener ça près des temples qui étaient tous situés au bord de la mer et qui tournaient le dos, hein, à la mer, hein. Eh bien, justement, on a vu qu'il y avait un système de rondins de bois. Bon, peut-être, hein, peut-être que pour les Olmèques, c'était aussi le cas, hein. Et la religion des Olmèques nous est encore totalement inconnu à ce jour. C'est vraiment un peuple très mystérieux, hein, qui va rentrer en décadence au milieu du dernier millénaire avant notre ère, hein, en 500 avant notre ère. Cette civilisation donc disparaît. Ensuite, donc là, on a plus d'informations concernant les Mayas, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment évidemment à cause de leur fameux calendrier, hein, ce fameux calendrier du mois de décembre 2012, hein, dont on a déjà vu les éléments. Alors je regarde rapidement s'il n'y a pas de questions d'auditeurs, car les questions peuvent apparaître sur le site. Non, il n'y en a pas. J'avais déjà répondu longuement à une question d'un internaute de Facebook concernant justement le choc biologique entre les Européens et les peuples de cette région. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, ensuite, donc les fameux Mayas. Alors là, on est également dans des dates extrêmement lointaines, hein, plus de 1000 ans avant notre ère. Hein, la date la plus lointaine, hein, je vous l'ai dit, ça rentre en déclin à partir de l'an 1000, ça se prolonge jusque à l'assimilation, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, par les peuples qui ont pris la suite, c'est-à-dire en gros les Aztèques. Donc, évidemment, on a près de 1000 ans d'histoire pour le peuple maya. Là, on en sait un peu plus. C'est un système de cité-État, les principales villes étant Chichen Itza et Copan. Hein, des villes de 70 000 habitants quand même, hein, c'est assez important. Le fameux codex, hein, donc qui est une forme de langage, hein, de communication du peuple, le système de calendrier, une religion polythéiste, on va y revenir, et donc je le disais, un système de cité-État, hein, bien sûr avec comment dire une autorité, une caste de prêtres, bien sûr, une caste de politique, etc. Enfin, on retrouve, hein, un système à l'antique, en quelque sorte, hein, pour le dire, pour cette civilisation. 13 millions d'habitants, hein, en tout, hein, c'est absolument énorme, hein, pour cette époque-là, hein, sont vraiment des peuples très 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 nombreux, hein, il faut imaginer cette multitude, hein, je crois que c'est très important, donc c'est eux qui font les fameuses pyramides à degrés, hein, dont la plus célèbre est celle de Palenque. Palenque, hein, célèbre pyramide donc des Mayas. Et puis donc on en revient aux deux autres fiches que j'ai voulu faire pour bien clarifier les propos que l'on a ce soir. Qui sont donc ce peuple, donc les peuples qui ont été conquis, pourrions-nous dire, hein, par les Espagnols, hein, qui sont d'une part les Aztèques, donc sur la zone, disons, mexicaine, hein, plus au sud, donc dans toute la partie Amérique du Sud, dont on va parler aussi, qui sont les Incas. Alors, ils sont à peu près parallèles, on l'a vu, au niveau des dates, hein, on est sur des empires qui vont durer à peu près 3 siècles. Pour les Aztèques, donc, qui prennent la suite des Olmèques, des Mayas, des Zapotèques, on a vu tout à l'heure, donc ensuite, hein, explique, une culture, ensuite l'autre. Alors, il y a une grande question récurrente, c'est pourquoi ben, justement des civilisations dont on a parlé tout à l'heure entrent en décadence? Pourquoi disparaissent-elles? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'une part qui sont des civilisations, on va le voir justement, extrêmement fragiles. Deuxièmement, il y a les conditions de vie économique très précaires, c'est-à-dire que des famines, hein, arrivent régulièrement et peuvent très bien emporter une bonne partie de la population. Hein. Il y a des révoltes et puis il y a aussi les conditions climatiques, les cyclones. Hein, c'est une région, on le sait, très tourmentée, hein, que cette région de l'Amérique centrale notamment, hein, et les tremblements de terre. Hein. Il y a eu beaucoup de facteurs qui peuvent se mettre en commun pour réduire à néant des civilisations comme les Mayas ou les Olmèques. Hein. Alors ce sont des mystères, mais enfin disons que je dirais que plus c'est étudié par les archéologues et plus le mystère, pour nous dire, les mystères se rétrécissent. Alors, les Aztèques, donc, à peu près 300 ans d'histoire, de 1200 de notre ère, jusque donc la fameuse conquête et la disparition de l'empire donc aztèque en 1521, conquis par donc ce conquérant espagnol du nom de Hernán Cortés. Alors la capitale c'est Tenochtitlan, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'actuel Mexico, hein, 300 000 habitants. Une capitale donc absolument énorme, on a reconstitué, hein, les temples qu'il y avait là, les cités, les palais, et également les immenses pyramides, dont la plus célèbre, le Templo Mayor. La grande pyramide du peuple aztèque, hein, qui avait tant impressionné les conquistadors. Alors eux, ils ont une particularité, c'est qu'il y a les sacrifices humains. Hein, bon, d'autres peuples les pratiques, mais particulièrement, ce qui avait beaucoup marqué les Espagnols, cet aspect de sacrifice humain. Hein, vous savez très bien, on arrache le cœur avec une pierre d'obsidienne, hein, des personnes sacrifiées, puis ensuite on barbouille tout cela avec, comment dire, de façon rituelique, bien sûr, les différentes statues des dieux. Hein. Ça, évidemment, c'est là pour les Européens qui arrivaient en conquérant ces terres, hein, en cherchant bien sûr ce qu'on appelait l'Eldorado, hein, c'est-à-dire en fait de l'or, hein, parce que c'était ça qui a motivé principalement la conquête hispanique, hein. Eh bien, évidemment, ça accentue encore le choc dont on va parler tout à l'heure. La langue qui est parlée, le nahuatl, hein, il faut le savoir, c'est une langue donc que parlaient les Aztèques. 24 millions d'habitants, un empire gigantesque, c'est le plus grand, hein, c'est l'empire qui comporte le plus d'habitants. Tous les autres, on est autour de 10 millions, là on a 24 millions d'habitants. Et donc toute une série évidemment de grands temples, et là comme pour les Incas, on est dans une structure non plus de cité-état mais vraiment très centralisée, avec un empereur, hein, qui, tout comme l'empereur aztèque ou l'empereur inca, seront éliminés à la fois par la ruse, hein, et tout simplement liquidés par les conquistadors. Et donc au sud, on termine notre petit parcours de fiches avec les Incas. Les Incas, c'est un peu les mêmes dates. La soumission de l'Empire Inca se fera en 1533. Donc Hernán Cortés a soumis les Aztèques. Pour les Incas, c'est Francisco Pizarro. Pizarro conquérera, hein, on va y revenir, l'Empire Inca de 1527 à 1533. La conquête de l'Empire aztèque pour Cortés a duré de 1519 à 1521. La langue, là, c'est le quechua, la langue principale. Les cités parmi les plus impressionnantes, bah, c'est Cusco, hein, qui est la capitale, hein, qui comporte 300 000 habitants, hein, un réseau routier, on l'a dit, de 25 000 km, hein, c'est tout à fait impressionnant. Cusco comme capitale, et puis bien sûr les fameuses cités, hein, tout à fait extraordinaires, notamment du Machu Picchu, hein, dont je vous ai parlé donc à l'instant. Alors nous continuons notre parcours, car l'heure tourne et il nous reste pas mal de choses à évoquer. Ben, c'est justement cette fameuse conquête. Alors pourquoi, effectivement, je le disais tout à l'heure, d'où est-ce que tout cela est-il parti, hein, on le sait aujourd'hui. Christophe Colomb et les Espagnols n'ont pas été les premiers, hein, à découvrir les Amériques. Hein. Il y a eu des comptoirs, aujourd'hui on a fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé, hein, notamment en Amérique du Nord, hein, des comptoirs économiques établis aux alentours de l'an 1000 par les Vikings. Hein. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, l'histoire a retenu que la découverte de l'Amérique, c'était d'une part par Christophe Colomb et ensuite Amerigo Vespucci, hein, ça s'appelle l'Amérique, sinon ça se serait appelé la Colombie, hein, Amerigo Vespucci qui lui va effectivement découvrir le continent lui-même, hein, alors que Colomb, on le sait, hein, s'était fait financer son expédition, hein, par la couronne d'Espagne, et l'objectif de Christophe Colomb était de trouver une route plus rapide, hein, pour atteindre les Indes, hein, et d'éviter d'avoir à passer par cet itinéraire interminable, hein, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de canal de Suez, hein, cet itinéraire interminable qui était donc de passer par les côtes sud, la côte sud de l'Afrique et le Cap de Bonne-Espérance. Hein. Là, l'idée, c'était de trouver une autre route en allant au grand dam de l'époque, en mettant le cap à l'ouest. Hein, sauf qu'à l'époque, on sait bien, l'idée répandue qui était fausse, puisque tout le monde, les personnes sachantes, pour mieux le dire, savaient, hein, que depuis les Grecs, on avait démontré que la Terre était ronde, mais néanmoins, Néanmoins, ce cap à l'ouest était absolument terrifiant. Et l'idée de Colomb, c'était de se dire, eh bien voilà, moi je vais passer par l'ouest pour aller plus vite, hein, et donc atteindre les Indes, hein, parce que tout ça, c'était pour des raisons économiques. Et c'est pour ça que les peuples qu'on a rencontrés là-bas, ben, quand il est arrivé, hein, dans la région de l'actuel Cuba, hein, enfin, dans cette île d'Hispaniola, eh bien, bon, pas loin d'Haïti, Haïti, Cuba, dans toute cette région de toutes ces îles des Caraïbes, c'est là que Colomb arrive, hein, bien, les peuples, ce sont des Indiens. Hein. Effectivement, non, bien sûr, hein, il s'agissait des peuples autochtones, rien à voir avec les Indiens, mais l'histoire a fait que, hein, c'est toute l'histoire de 1492, hein, je n'y reviens pas, on pourrait faire une émission entière sur 1492, bien sûr, ça n'est pas le but ici, mais il s'agit de comprendre, effectivement, d'une part, bah, que la première idée, c'était de trouver ce passage pour les Indes par l'Ouest. Bon. Ensuite, ben évidemment, avec Amerigo Vespucci, on va comprendre assez rapidement, hein, les Portugais, les Espagnols, hein, qui sont à l'époque, il faut aussi se le représenter, des civils, des peuples tout à fait conquérants, avec des marines extrêmement puissantes, hein, et des navigateurs tout à fait remarquables. Hein, il faut aussi savoir qu'avec l'essor de la Renaissance, hein, il y a tout un tas de techniques, hein, qui vont apparaître, la voile carrée, etc., hein, qui vont le gouvernail, etc., enfin bon, je vais passer les détails, hein, qui vont permettre évidemment d'avoir une technologie qui va faire qu'on va désormais ne plus avoir trop peur de s'élancer dans l'océan, hein, et arrêter le petit cabotinage qu'on faisait le long des côtes, donc jusque-là. Et après, bah, l'idée rapidement, ça va être de se dire que, bah oui, on va mettre la main, hein, sur ce qu'on croit être le fameux mythe de l'Eldorado, hein, c'est-à-dire l'Eldorado, la dorure, les palais dorés, parce que, eh bien oui, à partir du moment où les Espagnols et les Portugais mettent le pied sur ces fameux continents, hein, on commence à se dire, ben voilà, regardez, ces civilisations, ces peuples ont des parures en or, etc. Et donc l'idée, bien sûr, c'est qu'on va mettre la main, hein, sur des trésors absolument formidables, hein, des mines d'or, etc. On le sait bien, l'Eldorado restera un mythe, certes, bien sûr, les civilisations mésoaméricaines, comment dire, exploitaient l'or, à des fins notamment religieuses, bien sûr, pour les parures des prêtres, etc. Hein, et on a en mémoire toutes ces extraordinaires sculptures en jade, en métaux précieux, hein, et en or, bien sûr, mais ça restera un mythe. Mais néanmoins, c'est ce qui va évidemment pousser, hein, dans un premier temps, la fameuse conquête. Hein, cette conquête, donc, qui bah, va être principalement le principal événement du début du XVIe siècle qui vient. Hein. Colomb, c'est la fin du XVe, hein, 1492, et ensuite, eh bien, ça va être essentiellement Pissarro et Cortés, hein, qui vont, si je puis dire, se jeter, hein, sur le continent mésoaméricain, hein, et soumettre les peuples aztèques et incas. Alors, bien sûr, cette phase dite de, comment dire, de conquête de l'Amérique du Sud, hein, et de son exploitation aussi, hein, parce qu'il faut en parler, hein, ça se termine, hein, donc ça commence au début du XVIe siècle, ça se termine à la fin du XIXe, hein, puisque c'est le moment où, en fait, hein, en 1898, eh bien, les Espagnols perdent leur dernière possession, hein, face, donc, ben, ils sont remplacés, en fait, par les États-Unis, hein, qui étendent, qui sont en pleine expansion à ce moment-là de leur sphère, pour mieux dire, d'influence. Alors, Cortés, eh bien, ses dates sont 1485-1547, et c'est lui qui, donc, de 1517 à 1520, va donc débarquer au Mexique, va conquérir l'Empire aztèque, hein, cet empire qui comportait plusieurs millions d'habitants, plus nombreux, hein, on l'a vu, 300 000 habitants dans la capitale, plus de 20 millions d'habitants. Hein, vous imaginez la taille des armées, comment dire, de l'empereur aztèque. Hein, et comment se fait-il, hein, cet empereur aztèque dont le dernier sera Moctezuma, hein, n'oubliez pas son nom, eh bien, comment se fait-il que Cortés a pu, en 3-4 ans, hein, s'emparer d'un empire d'une taille pareille, Eh bien, d'une part, parce que une prédiction était en cours à cette époque-là chez les Aztèques, notamment dans la caste des prêtres, hein, bien sûr, qui disait que le dieu à plume, Quetzalcoatl, hein, dont on parlera vite fait tout à l'heure au sujet des dieux, eh bien, ce dieu devait revenir, hein, en quelque sorte, et pour un certain nombre de raisons de prédiction, on croit que Cortés, en fait, est un dieu, est une réincarnation de ce dieu qui revient donc pour apporter la félicité aux Aztèques. Alors là, évidemment, ça va faire illusion au début, et ensuite les ruses, hein, en fait, de Cortés, d'une part, la supériorité technologique, ce que je disais aussi à la question qui m'avait été posée avant l'émission, vont faire que rapidement les quelques centaines de conquistadors vont finir par s'emparer et soumettre complètement l'empire aztèque. Le choc bactériologique aussi, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'il a existé, hein, évidemment, c'est-à-dire en gros les maladies inconnues, hein, apportées par les Européens dans ces pays-là vont évidemment décimer aussi une bonne partie de la population. Bon, je pense que c'est plus secondaire, je mettrai plus la supériorité technologique, le choc tout simplement, comment dire, de 1000 ans, si on peut dire, d'évolution technique, hein, que brusquement les Aztèques vont découvrir, hein, tout comme pour les Incas. Tout ça forme, hein, une forme de choc culturel, socio-culturel, historique, qui fait que, eh bien, c'est évidemment la civilisation la plus matérialiste, hein, des deux qui va l'emporter. Même scénario, évidemment, pour l'Empire Inca. Là, c'est Francisco Pizarro, 1475-1541 pour ces dates, qui lui, donc également en quelques années, et il en terminera un peu plus tard, en 1533, finira par soumettre l'immense empire Inca, hein, qui s'étend du nord au sud de l'Amérique du Sud. Hein. Et là aussi, tout comme Moctezuma sera liquidé par Cortés, là c'est Atahualpa, qui en 1533 sera assassiné, et qui amènera justement la fameuse conquête, hein, de l'Empire Inca et de l'éventuel Eldorado, cette partie conquise par l'Espagne. Alors vous me direz là-dedans, mais et les Portugais? Eh bien justement, cela a fait l'objet d'un traité, qui a été signé le 22 avril 1500, qu'on appelle le traité Tordesillas, hein, qui est signé non pas le 22 avril 1500, mais le 7 juin 1494, un peu avant. Et ce traité, eh bien, va se faire répartir tous les territoires, au-dessus d'une ligne qui est tracée arbitrairement par le pape, hein, et bien, donc, le 7 juin 1494, tout ce qui est à l'est de cette ligne, traité de Tordesillas, est attribué donc au Portugal, hein, ce qui fait que le Brésil, évidemment, tout entier, sera contrôlé par le royaume du Portugal, et tout ce qui est à l'ouest de cette ligne, et bien, ce sera pour l'Espagne. Le 7 juin 1494, signature du traité de Tordesillas. Et justement, je vous parlais du Brésil, parce que le Brésil, eh bien, il est découvert justement par Cabral, hein, le 22 avril 1500, donc un peu après, hein, Cabral, dont les dates sont 1467-1520. Hein. C'en est fait, vous voyez, en quelques années, eh bien, la première moitié du XVIe siècle, l'intégralité de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale sont désormais colonisées par les immenses empires portugais et espagnols, dont l'objectif, bien sûr, va être, hein, bien sûr, d'exploiter, comme dans tous les phénomènes de colonisation, à un maximum les ressources, hein, de ces pays conquis, en réduisant, bien sûr, la population des Indiens en esclavage, hein, ceux qui ont survécu. Et cela va mener à quelque chose qui est bien connu, qui s'appelle la controverse de Valladolid, qui a eu lieu de 1500 à 1550 à 1551, et cette controverse de Valladolid, hein, eh bien, vous le savez, il y a un magnifique téléfilm, hein, qui est passé il y a une vingtaine d'années de cela. Hein, je pourrais en mettre, si certains, ça les intéresse, les références. Controverse de Valladolid, qui va être de dire, ben voilà, est-ce que les peuples que nous venons de conquérir, les Incas, les Aztèques, ont une âme ou pas? S'ils ont une âme, eh bien, on ne peut pas les réduire en esclavage parce que ce sont des chrétiens potentiels, etc., etc. Et vous le savez, hein, c'est d'ailleurs une victoire à la Pyrrhus, pourrions-nous dire, parce que la résultante de la controverse de Valladolid va être de dire que justement, hein, eh bien, les Indiens, en effet, ont une âme, donc on ne peut pas les réduire en esclavage. Et qu'est-ce que va faire, puisque bien sûr les conquistadors, hein, les colonisateurs ont besoin de main-d'œuvre, et bien, puisque les esclaves, hein, ne vont pas pouvoir être les Indiens qu'on a réduits en esclavage, ils ne seront plus esclaves, mais il va falloir chercher la main-d'œuvre ailleurs. Et cette main-d'œuvre, où est-ce qu'on va aller la chercher? Vous le savez bien, en Afrique. Ce sera donc la naissance du commerce triangulaire. Pourquoi? Parce que triangulaire, parce que les bateaux des conquistadors partaient, hein, de l'Europe. Hein, avec de la verroterie, se rendaient auprès des peuples africains pour acheter, si je puis dire, de la matière humaine, hein, pour l'emmener en Amérique en échange de quelques verroteries. Les bateaux donc partaient traverser dans les conditions épouvantables que l'on sait aujourd'hui l'océan Atlantique. Arrivés là-bas, ces peuples africains, ces femmes et ces hommes étaient là-bas réduits en esclavage. Et le résultat de cette traite des Noirs, hein, absolument épouvantable, va mener, bien sûr, aux bateaux à repartir plein de richesses, hein, justement du fameux Nouveau Monde, hein, vers l'Europe. Hein. C'est ça, le commerce triangulaire, parce que ça forme un triangle. Hein, c'est évidemment un des grands scandales, hein, bien sûr, de l'histoire de l'esclavage. Alors, on en arrive maintenant vers la fin de notre émission et je voulais tout simplement, en guise de conclusion, un peu, hein, pour les 5 ou 10 minutes qui restent, évoquer les fameux mystères, hein, qui restent, parce que bien sûr, on est là sur un siècle à peu près, hein, un siècle d'histoire. D'histoire des travaux archéologiques concernant ces peuples, bien sûr. Et bien sûr, beaucoup de choses restent très, très mystérieuses. Alors, deux cas déjà, le monde Inca, le Machu Picchu. Première chose que je souhaite évoquer, qui a été trouvée par un homme qui s'appelle Augustin Lizarraga. Il faut le savoir, le 14 juillet 1902, c'est lui qui a le premier trouvé le Machu Picchu et qui a permis à Hiram Bingham, alors lui c'est celui que l'histoire a retenu en 1911, pour découvrir cette fameuse cité qui a inspiré à Hergé le Temple du Soleil, il ne faut pas l'oublier, et le Machu Picchu, personne ne sait à l'heure actuelle pourquoi est-ce que ça a été édifié là, quel était le caractère sacré de cette ville, enfin il n'y a que des mystères autour de cette cité qui était totalement inconnue du temps de la conquête. Hein, hispanique, bien sûr. Ensuite, il y a les fameux Stettelmeck, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, autour de 1300 ans avant notre ère. Hein. 1300 ans avant notre ère, pour les Olmecs, c'est la période de Ramsès II. Ça vous donne une idée de l'ancienneté absolument considérable de ces civilisations, hein, dont on parle ce soir. C'était Olmec, dont le mystère principal, 50 tonnes quand même, une tête, hein, sont des pierres, hein, faites avec des pierres originaires, pardon, de 100 km, hein, au-delà du site. Donc c'est quand même tout à fait mystérieux de savoir comment, hein, les Olmecs ont fait pour les transporter. C'est-à-dire, du temps de Ramsès II, on savait aussi comment, on commence à le comprendre maintenant, on avait pu construire ces choses aussi extraordinaires que sont les pyramides du site de Gizeh. Ben voilà, donc là aussi, on est face à un certain nombre de mystères. Ensuite, et j'avance vite afin de ne pas trop dépasser de mon temps, il y a la fameuse affaire des alignements de Nazca. Alors là, c'est tout à fait étonnant, ce peuple très ancien dont on ne sait presque rien, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les plateaux péruviens face au Pacifique. Et là, on a effectivement un calendrier gigantesque de géoglyphes, hein, On ne sait absolument pas comment, quelles techniques ont pu employer le peuple Nazca pour tracer sur des dizaines et des dizaines de kilomètres un bestiaire symbolique composé, je le cite, de colibris, de singes, de chiens, d'araignées, d'hérons, de cachalots et de personnages que certains identifient comme étant de potentielles figures, de personnages masqués comme auraient été des astronautes. C'est la fameuse théorie, mais là je n'entre pas dans les détails, on ne peut vraiment pas le faire dans cette émission, des anciens astronautes. Hein, je pense que celles et ceux qui sont habitués de notre chaîne Terra Z connaissent cette théorie. Je n'entre pas dans les détails, bien sûr, qui est de dire que finalement des peuples plus évolués auraient contacté ces peuples indiens et leur auraient transmis des connaissances. D'où venaient-ils? Alors, plusieurs origines, Atlantide, extraterrestres, bien sûr, etc. On en sait quand même pas grand chose. Il y a aussi une théorie qui dit que tout simplement ces lignes droites ont été construites par les mathématiques, tout simplement. C'est des peuples qui avaient de grandes connaissances en matière de mathématiques, avec des dériques en bambou qui permettaient de tracer les lignes droites. Bah, peut-être bien que c'est quand même ça qui fait, comment dire, ces lignes droites. Et puis j'ai gardé la fin pour le meilleur, si je puis dire, qui est un peu en marge du fameux Eldorado dont on a parlé depuis tout à l'heure, avec une référence filmique qui est Aguirre, la colère de Dieu, film de Werner Herzog qui raconte justement comment cette petite troupe de conquistadors va se perdre dans la forêt amazonienne à la recherche de l'Eldorado qu'ils ne trouveront jamais, avec Klaus Kinski. Je vous recommande vraiment, on veut se repaître de cette période-là, reconstituer la période, c'est assez intéressant. Et le dernier mystère, bien sûr, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il passionne certainement beaucoup de monde, c'est celui des fameux crânes de cristal. Alors, le fameux crâne de cristal, il faut le savoir, ça remonte par une découverte qu'a fait la fille d'un archéologue qui s'appelait Mitchell Hedges, Anna Mitchell Hedges, qui en 1924 dit avoir trouvé dans un temple au Belize un crâne de cristal, qui est absolument à qui on prêtait bien sûr des pouvoirs tout à fait étonnants. C'était sur un site maya. Alors évidemment, l'histoire va faire que d'autres crânes, jusqu'à 4 en tout, vont au fur et à mesure du XXe siècle être recensés. Mais voilà, et je n'ai plus beaucoup de temps, hélas, pour vous en parler. Mais en 2008, on se rendra compte avec les technologies, si vous voulez, actuelles, qu'en fait ces crânes n'ont pas du tout été créés, fabriqués par les peuples, comment dire, mayas, plus de 1000 ans avant notre ère, mais en fait ont été tout simplement polis. On l'a vu avec des microscopes, comment dire, ultra modernes. Ont été polis, avec des techniques modernes. Donc il s'agissait évidemment d'une mystification archéologique. Voilà. D'autres théories, je le précise, parce qu'il faut toujours laisser la porte ouverte aux autres théories, je ne veux pas anéantir le rêve que l'on peut avoir sur les crânes de cristal, disent que ça pouvait aussi avoir été fait avec d'autres techniques. Le débat est ouvert, mais enfin jusqu'à présent, et je vous renvoie aussi, pour celles et ceux qui aiment le cinéma, au dernier épisode d'Indiana Jones qui traite justement de ce mythe des crânes de cristal. Beaucoup de, on l'a vu, et ce sera mon dernier mot, beaucoup de thèmes qui s'imprègnent du fantastique et du rêve et du mystère surtout, recouvrent toute cette époque, toutes ces civilisations mésoaméricaines, parce que, et encore une fois, c'était mon propos du début et ce sera celui de la fin, de dire que ces civilisations mésoaméricaines, nous en sommes au début seulement de la connaissance que nous pouvons progressivement acquérir sur elles. On en est vraiment au début. Donc, bien sûr, une bonne part de mystère et de rêve continue, de les entourer, qui se dissipe progressivement. Voilà, rapidement, en une heure, comment j'ai pu vous synthétiser à peu près 2000 ans d'histoire de l'Amérique du Sud, de la Mésoamérique. Évidemment, il va de soi que des heures d'émission suffiraient pour parler de tel ou tel peuple, mais que bien sûr, cela n'est pas, en tout cas, pour le moment, à l'heure du jour. La prochaine fois, nous nous retrouverons le jeudi 31 mars, de 21h à 22h, toujours sur Terra Zen. Et cette fois-ci, je vais vous emmener sur l'histoire tout à fait radicalement différente d'un mystère qui en est peut-être moins un quand même aujourd'hui, qui est celui du naufrage du Titanic. Nous aurons l'occasion, donc on va repartir en 1912, là, de parler de cette première catastrophe globale, pourrions-nous dire, hein. C'est un peu le terme qu'on pourrait retenir concernant donc ce navire insubmersible. On aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Les questions que vous pouvez me poser seront les bienvenues sur les différents médias, Facebook, Twitter, possible imaginable, où vous pouvez communiquer avec moi facilement, vous le savez. Et donc, c'était Histoire du soir avec Olivier sur la web radio TerraZen. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour la sixième, le jeudi 31 mars autour du Titanic. À bientôt!